Bien, bonjour, je suis Eric et c'est Alain à côté de moi qui va aussi participer à la conférence. Donc après la conférence de Noémie, on s'est baladé dans un monde absolument fabuleux, et très imaginaire. On va revenir sur des choses extrêmement terre-à-terre, le terre-à-terre au sens sol, puisqu'on va aller se balader un petit peu dans le système solaire qui est la zone où nous travaillons tous les deux. Nous sommes tous les deux des chercheurs au sein de l'Observatoire en sciences de l'univers de Grenoble, et tous les deux participons à deux missions d'exploration spatiale très différentes que l'on va vous présenter alternativement. Alors, on avait prévu chacun de parler pendant 3 ou 4 heures, donc on va faire du rapide. Néanmoins, à la fin de chacune des deux parties principales, vous aurez possibilité de nous poser des questions. Et puis ensuite, il y aura deux additifs, parce que je pensais que c'était intéressant de présenter des points liés à cette vision de l'exploration et le ressenti dans la société, un point qui est en train d'émerger et qui est déjà éminemment politique et polémique, pardon, c'est surtout ça que je veux dire, et puis un autre point qui est ce qu'on attend de l'exploration spatiale future, et là on vous donnera un petit peu notre avis. Donc voilà, ça va durer en gros 2 fois 15 minutes, plus des questions, et ensuite 2 fois 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc, première partie, c'est sur l'exploration actuelle de la planète Mars. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous resituer où est Mars, mais en fait, la question, c'est pourquoi on s'intéresse tant à Mars. Bon, il y a plus près quand les planètes sont proches, parce qu'évidemment, elles tournent chacune à leur vitesse, donc très souvent, elles sont très loin. C'est le cas actuellement. Mars, dans quelques jours, va disparaître de nos possibilités de communication, puisqu'il va passer derrière le Soleil. Donc je suis à quelques jours d'être au chômage technique. Vénus pourrait être plus près quand elle le veut bien. Malheureusement, c'est un monde particulièrement inhospitalier. Et donc c'est pas pour ça qu'on s'y intéresse moins, parce que évidemment l'intérêt d'aller sur Mars, c'est de vouloir l'explorer plus tard à pied. Alors quand on considère la surface de Mars, elle est toute petite. Mais en fait, justement, en ce qui concerne la visite à pied, eh bien, c'est la même surface que la surface de nos continents à pied sec. Hein, donc, c'est une comparaison qui est utile à avoir en tête. Maintenant, c'est pas la justification principale d'aller sur Mars. Une des justifications d'aller sur Mars, c'est ce qu'on entend souvent comme justification scientifique, c'est de dire que finalement, le système solaire, il a une certaine variabilité. On va voir des choses très différentes. Mais on va chercher des unités. C'est le rôle des scientifiques d'essayer de trouver l'unité, les fameuses lois de la physique, derrière les objets. Et donc en particulier, Mars a une très faible atmosphère, mais a une atmosphère. Donc on va pouvoir faire de la climatologie. Mars est très sèche et très chaude par rapport à cette sécheresse. On verra qu'il ne fait pas si chaud que ça. Cette sécheresse fait que la climatologie, on peut tester les modèles terrestres et éventuellement les améliorer, les corriger, etc. Évidemment, ce qu'il y a, quand on interroge nos compatriotes, pourquoi aller sur Mars, ce qu'ils ont en tête, c'est pas du tout ça. Ce qu'ils ont en tête, c'est plutôt ce genre de choses que l'on voit. Première chose, on a envie d'aller sur Mars, et c'est évident. Et on en reparlera ultérieurement, pas dans la première partie, mais dans la dernière partie. L'autre chose, la grande question, c'est y a-t-il eu apparition de la vie ailleurs dans l'univers? Et en particulier, les collègues qui ont travaillé sur les temps anciens de cette planète ont montré que Mars a été, à une époque, habitable. En fait, c'est un des résultats de la mission. Alors, quand ça passe par l'illustration des gens du cinéma, éventuellement, vous trouvez même qu'il y a eu de l'herbe. Et s'il y a de l'herbe sur une planète, il y a tout lieu de penser qu'il y a eu des escargots de Mars, notez. Alors, faire la visite pédestre d'une planète, ça signifie pouvoir se déplacer. Et donc voilà la flotte complète des objets qu'on a envoyés sur Mars et qui ont survécu à l'arrivée et qui ont pu se déplacer. Donc ça, c'est tout le premier, fin du XXe siècle. Celui-là, il fait toujours la gloire des États-Unis, parce qu'il s'est posé en 2003 pour 3 mois, et puis il y en a un, ça fait 14 ans, il continue à crapahuter. Et celui-ci, il est arrivé, il y aura bientôt, dans quelques jours, 5 ans. Et il est en pleine période d'activité. Et donc là, c'est un peu son histoire que je vais vous raconter. Voilà une des premières images. Notez comme il est particulièrement blanc. On verra tout à l'heure ce qu'il en est à l'heure actuelle. Alors aller sur Mars est malgré tout assez difficile. Il s'avère que en 2009, on a sorti ce score pour nous motiver. Il y avait sur toutes les missions, il y en avait 15 sur Terre, il y avait 15 missions terriennes qui étaient arrivées à bon port, et il y en avait 24 qui avaient perdu le match. En particulier, le problème, c'est pas le lancement, c'est pas le voyage, pour ce qui concerne les machines, c'est l'arrivée. On peut aller beaucoup plus vite sur Mars, mais plus on arrive vite, plus il faut freiner fort. Or, Mars, avec sa très faible atmosphère, c'est très difficile de... Oups, pardon, je vais passer tout seul. C'est très, très difficile de freiner. Et donc, il faut avoir de l'ingéniosité. Alors, il y a eu différentes astuces qui ont été développées par les ingénieurs en astronautique. On commence par freiner en sortant les bras de la voiture. Hein. C'est ce qui s'appelle l'aérofreinage, avec un bouclier qui monte à quelques milliers de degrés de température. Donc, il faut des matériaux particuliers. Et puis, décidément. Et ensuite, de toute façon, il faut que ça soit complètement automatique. Parce que quand Mars est au plus proche de la Terre, ce qui était le cas à peu près à cette époque-là, c'est à 14 minutes-lumière. C'est une distance en unité lumière. Alors que la durée entre... Non, c'est bon, c'est la suivante.
D'accord.
Merci. Alors que la durée entre le contact de l'atmosphère à quelques centaines de kilomètres d'altitude et puis l'arrivée ici, c'est 7 minutes. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on a entendu le bip de « je suis au contact de l'atmosphère », en fait, à ce moment-là, il était déjà sur Mars, en entier ou en morceaux. Ça, on l'a découvert un peu plus tard. Alors justement, comme c'était vraiment un challenge et qu'à cette époque-là,
lui qui s'est synchronisé. Ah,
d'accord. Je ne touche plus à ce machin-là. Comme il y avait un enjeu qui était très très fort à ce moment-là, il y avait des grands débats au niveau des politiques américaines. La NASA, c'est National Administration of Space and Aeronautics. L'aéronautique, c'est un truc qui est important, qui rapporte des sous. Les space, ça rapporte de la gloire, éventuellement des sous 30 ans plus tard. Mais en attendant, il y avait un grand débat. Donc, ils ont joué le tout pour le tout en produisant un film qui dure exactement 7 minutes, le temps de l'arrivée, et qui est un film d'horreur, qui est monté comme un film d'horreur, avec des éclairages très crus, etc., des petites symboliques qui parlent aux gens qui travaillent dans le domaine. Et il y avait une volonté là de dramatiser un peu cette arrivée, en disant, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, de toute façon, c'était la fin de la NASA spatiale. Ceci dit, les gens qui sont embarqués là-dedans, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui travaillent pour, on va dire c'est les pilotes, c'est les ingénieurs, et puis il y a les scientifiques. Et les scientifiques, à ce moment-là, c'est simplement des voyageurs, et ils attendent que ça se passe. Alors, quand on a bossé pendant 10 ans à préparer un instrument, c'est le cas de ce monsieur-là, Sylvestre Maurice, donc qui est mon collègue français qui a diriger la fabrication de l'instrument sur lequel je vous montrerai tout à l'heure je travaille. Avant, il était très joyeux, mais quand arrive le moment critique, il y a un petit peu de tension, et là, c'est vraiment assez tendu, et arrivent les premières images, et là, on est sûr qu'on est arrivé, évidemment. Ça, c'est des gens qui ont bossé essentiellement pendant quelques années pour ces fameuses 7 minutes. Alors, il y en a qui se mettent à pleurer, etc. Ça, c'est les scientifiques. Ils étaient très calmes, puis ils ont été très tendus, et puis c'est pas des gens très normaux, les scientifiques, hein. Ils se mettent à danser dans des conditions. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de journalistes dans le coin. Ici, c'est les journalistes, et puis les VIP, beaucoup plus calmes. Les scientifiques, malgré tout, il fallait rapidement qu'ils reprennent leur esprit, puisqu'ils avaient à travailler tout de suite après, à voir les premières données. Alors ceci dit, on avait préparé la chose, et dans la partie préparation, puisque on ne sait pas exactement où on va se poser, à quelques kilomètres près, espère-t-on, eh bien, on avait une image à grande étendue, et on a tous parié. Alors tous, ça signifie, il y a trois chercheurs là-dedans, mais il y a aussi un ingénieur qui a conçu une partie d'un instrument, et puis un informaticien, et puis une étudiante. Voilà, donc tout le monde a parié. On n'a pas su tout de suite où on était atterri, parce que c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était de voir si on avait bien atterri, s'il n'y avait pas eu trop de dégâts au niveau de l'atterrissage. Et donc, on a laissé, grâce à ces images-là et à des modèles numériques de terrain qu'avait offert la NASA, on a laissé les amateurs jouer. Et en quelques jours, un amateur a trouvé la solution à quelques centaines de mètres, c'est-à-dire à la précision des images que l'on avait, le lieu d'atterrissage. Par parenthèse, il s'avère que c'est un Français qui est un professeur de lycée. Bon, à l'époque, il était aussi étudiant en thèse. Alors, vous le croirez ou pas, mais l'endroit où on a atterri, on l'avait quadrillé par morceaux, on avait mis des numéros, et pendant les semaines qui précédaient, on avait tous étudié ces numéros-là. Et celui où on a atterri, ben, c'est celui qui est en blanc, c'est le numéro 51, secteur 51. C'était assez délicat d'expliquer ça à la presse. Alors l'instrument sur lequel je travaille s'appelle CamCam, c'est une caméra chimique. Le principe, il est simple, c'est on prend de la lumière concentrée, c'est de la lumière déjà laser. Après, on applique le principe de la loupe pour le concentrer encore plus, c'est-à-dire qu'il y a un télescope, et avec ça, on va pouvoir faire chauffer quelque chose. Donc, le quelque chose, ça va être un bout de caillou, vous en avez un exemple ici. En fait, ça fait une petite étincelle, parce que c'est porté en quelques nanosecondes à 10 000 degrés, ça fait un flash lumineux, et cette lumière, on va la récupérer par un système équivalent à un prisme, ça s'appelle un réseau, pour faire une analyse chimique. Donc on a été capable, pratiquement les premiers, en tout cas hors de terre, de faire une analyse chimique à distance, jusqu'à à peu près 5 mètres de distance. Évidemment, quand on a un joujou comme ça, ça fait rêver, donc on voit la lumière laser, ça c'est une image complètement fausse, vous le savez bien, mais voilà, on illustre ça. Et évidemment, quand en plus on s'appelle Curiosity, la curiosité est un vilain défaut, n'est-ce pas? En anglais, ça se dit « Curiosity killed the cat ». Donc on a trouvé beaucoup de chats écrasés sous nos roues. Bon, ceci dit, ça se voit quand on travaille, on fait des petits trous. Les petits trous, là, font à peu près la taille d'un demi-millimètre. Facile, quand c'est dans la poudre, il y a un effet de souffle. Voilà la même chose en animation. Ça, c'est quand même 8 jours de boulot pour pouvoir faire ce petit film-là, parce que à l'époque, on n'était pas sûr qu'il n'y aurait pas des reflets qui viendraient griller la caméra. Donc, il fallait simuler les tirs, puis les images, etc. Bon, de temps en temps, on s'amuse à faire des choses qui sont moins scientifiques, mais qui sont un peu spectaculaires. L'endroit auquel on a travaillé pendant 3 mois, c'est un endroit qui n'avait pas de fenêtre. Parce que sur Mars, la durée du jour, c'est 24 heures et 30 minutes. On bénéficiait de 30 minutes supplémentaires de grasse matinée chaque jour. Mais le problème, c'est que ça se décale, et donc au bout d'un moment, on est en complet décalage avec la Terre. À l'époque, on avait fait, donc ça c'est au bout de 22 jours, vous voyez, on avait fait 2000 tirs. Actuellement, on en est à 450 000. On espère faire le demi-millionième tir en septembre. Donc avec ça, on fait de la science. Ça, c'était pour raconter les histoires de décalage entre les jours martiens et les jours terrestres. À l'époque, on travaillait dans un bâtiment tous ensemble aux États-Unis. Maintenant, on travaille... Après, on a travaillé pour les Français à Toulouse. Maintenant, je peux faire ça depuis ma cuisine. Je peux piloter le rover, si je puis dire, depuis ma cuisine. Ça, c'est merci Internet. C'est vraiment absolument merveilleux. Alors, on a la preuve qu'on y est allé. Hein. On a cette image-là qui nous vient de Mars. Le rover est ici. Vous voyez ces roues, là. Alors, bon, on peut dire que ça a été aussi fait en laboratoire. Et voici un résultat scientifique majeur. On a fait un trou. Alors déjà, on a le record du monde du trou sur un autre corps céleste. Hein, il fait 2 cm de profondeur. On a tiré aussi avec le laser sur le trou. Mais vous voyez, c'est de la poudre, c'est de l'argile verte. Et de l'argile verte, vous en trouvez dans les pharmacies, mais en naturel, vous trouvez ça au fond des lacs d'eau douce, par exemple au fond du lac du Bourget. Et donc, ça prouve qu'il y a eu de l'eau douce sur Mars à une époque, pendant un temps suffisamment long pour faire quelques mètres d'argile, ce qu'on voyait à l'époque. Et donc, ça prouve que Mars, s'il y avait eu des petits poissons rouges, on aurait pu les mettre dans ce lac. S'il y avait eu des bons hommes, ils auraient pu boire un coup. Mars était habitable. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle a été habitée, mais c'était le but de la mission, c'est de savoir si Mars avait été habitable. Alors évidemment, quand on se balade dans des paysages aussi merveilleux, on fait aussi de la géologie, donc on découvre des tas de cailloux de toute beauté. Par exemple, celui-là, avec ça, on peut faire un cours de 2 heures. Vous voyez les traits qui se trient. En fait, ils sont organisés, ils s'entrecoupent, etc. Et ça, c'est typique de ce qui se passe au niveau des estuaires. Donc on sait que ce caillou-là, il est posé à un endroit où à un moment, il y avait simplement des cours d'eau qui venaient et qui déposaient les matériaux, puis les reprenaient, etc. Donc ça, c'est un peu la science qu'on a fait. Bon, une mission, au bout d'un moment, ça finit par s'user. Et évidemment, est arrivé le problème des roues. Vous en avez sûrement tous entendu parler. Ça faisait 400 jours martiens qu'on était là-haut. Ça, c'est des trous qui servent simplement à faire des marques. À chaque tour de roue, on marque quelque chose. Alors, initialement, dans le modèle de départ, il y avait écrit JPL, c'est Jet Propulsion Laboratory, le laboratoire qui a conçu le rover. Mais les Américains, ils n'ont pas aimé, ils trouvaient que ça faisait un peu trop pub. Donc, les ingénieurs ont mis ça. Ces trois marques-là qui sont typiques, on sait faire la différence entre la droite et la gauche. Simplement, c'est écrit en morse JPL. Alors, ça fait la une de la presse, on en nous a parlé pendant des mois. C'est vrai que ça nous a un peu perturbés, ça se dégradait plus vite. En fait, très rapidement, on était rassurés, ça se dégradait deux fois plus vite, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espérance de vie de, on va dire, quelques années, 5-6 ans, on n'avait plus qu'une espérance de vie de 3 ou 4 ans. Puis en fait, très rapidement, on s'aperçoit, on a compris pourquoi ça se trouvait entre ces choses-là, ces tendons-là, qui en fait sont la structure portante. Et ça, c'est simplement un voile métal, donc c'était pas très grave. Ça s'est vraiment dégradé il y a maintenant... on est à 1754 aujourd'hui, donc il y a 100 jours, à peu près, 3 mois. Il y a 3 mois, on a fait la publication en disant « Ah là là, cette fois-ci, on a cassé les trucs, ça se voit ». Là, c'est vraiment le début de la fin. Il n'y a que deux journaux français qui ont repris l'information. Alors voilà, ça c'est une image qui a été prise il y a 3 mois aussi. Vous voyez que le rover il est un peu plus sale maintenant. On a des résultats scientifiques en quantité. On a montré que Mars a été habitable dans le temps pour éventuellement des poissons rouges, mais à l'époque ça n'existait pas les poissons rouges, même sur Terre. On a montré que Mars n'est pas habitable pour l'homme, c'est-à-dire que grosso modo la durée de survie à la surface de Mars avec des scaphandres corrects, c'est de l'ordre de 60 jours. Parce que le taux de radiation est très fort sur Mars, son atmosphère ne permet pas de filtrer. On s'est posé la question du méthane qui avait été détecté sur Mars. On n'en a pas trouvé à cette époque-là, on n'en avait pas trouvé. Mais simplement, il y a eu 3 fois des bouffées de méthane. Or, le méthane, c'est super important parce que sur Terre, c'est la marque de la biologie. Sur Mars, ça reste une question. On sait faire du méthane, plus précisément, la nature sait faire du méthane sans cet aspect-là, sans la biologie, mais c'est assez rare. Ok, quelques jolis paysages de fond de lac. Alors, on est en train de monter. Bon, là, il y a une échelle qui est complètement distordue, hein, puisqu'en fait, on a monté 300 mètres en à peu près une vingtaine de kilomètres. Très précisément, on va atteindre les 17 kilomètres d'ici 15 jours. On est passé d'une zone de fond de lac à des zones plus de dunes. On a rencontré des choses très intéressantes. Je ne vais pas vous faire d'études scientifiques. Un truc très intéressant, on a vu le rover s'empoussiérer, et puis un jour, c'était moins poussiéreux. Bon, ben, on a enfin retrouvé le ménager qui vient nettoyer l'autre, Opportunity, qui se trouvait à un autre endroit. Lui, il est avec des panneaux solaires. Régulièrement, il y a quelqu'un qui passe pour nettoyer ses panneaux solaires. Au lieu de, au bout de 3 mois, s'arrêter parce que les panneaux solaires sont pleins de poussière, eh ben, ça fait donc une quinzaine d'années qu'il est là-haut. Voilà, ça c'est le dernier paysage qu'on a eu. En l'occurrence, c'est une photo qui a été prise il y a 4 jours, juste avant le week-end, et qui sert en même temps de mémorial à un de nos jeunes chercheurs qui est décédé malheureusement en cours de route. Alors après Curiosity, quel est l'avenir de ces explorations? Eh bien, puisqu'on cherche la vie, qu'on a montré que Mars très probablement a eu des conditions d'habitabilité pendant suffisamment longtemps pour que, en temps équivalent sur Terre, la vie ait apparu. Eh bien, pourquoi elle ne serait pas apparue sur Mars? Donc, c'est ça la grosse question scientifique à l'heure actuelle. Alors, 2020, donc il y a le successeur qui va arriver de la NASA, et puis le successeur de l'ESA aussi, qui a pris 2 ans de retard. Après 10 ans de retard, il a repris à nouveau 2 ans de retard. InSight, lui aussi, est en retard. Donc, InSight va arriver en 2018, mais lui, c'est un atterrisseur et il ne va pas bouger. Le rover... qui s'appelle Hugo et non plus MOMA, je crois, sur ExoMars, va arriver en 2020. En 2020 aussi, il va y avoir un satellite des États-Unis arabes qui va arriver. Et puis, peut-être deux ou trois stations privées. En tout cas, c'est ce qu'avait SpaceX dans la tête. Bon, les objectifs scientifiques, c'est les mêmes, sauf qu'on fait apparaître cette fois-ci le bonhomme. Pourquoi ? Parce que pour le même design, donc à peu près une centaine de kilos d'instrumentation, eh bien, il y en aura la moitié qui est réservée à du technologique. C'est ce petit machin-là. Tout le reste, c'est de l'équipement scientifique. Ça, c'est un démonstrateur technologique. Et on va fabriquer avec les moyens du bord, sur place, quelques litres d'oxygène. Donc c'est vraiment l'idée qu'on continue à faire des progrès en vue de d'aller sur Mars. Voilà. Et nous, on a travaillé sur un nouvel instrument qui s'appelle SuperCam, évidemment, pour faire mieux. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, après, on part sur un autre corps. Oui ? Ce chemin-là, il a été fait en à peu près 3 mois. Et puis, là où il est positionné, le petit point bleu qui était à peu près ici, on y reste 6 mois. C'est là... Alors, je pourrais vous montrer 2 photos qui ont été prises le jour et le lendemain sous les roues du rover. On voit les dunes balayées. Donc, il n'y a pas de vent sur Mars. Il n'y a pas énormément de vent. Mais de temps en temps, il y a des tempêtes qui dégénèrent et qui font que les vents se mettent à tourner tout autour de la planète. Ceci dit, la pression atmosphérique est tellement faible qu'au maximum des vents, quand vous avez des vents à 200 km/h, vous avez du mal à faire envoler une feuille. C'est pas comme dans les films. Il faut diviser en gros la vitesse par 10 à 15 pour avoir le vent équivalent terrestre à la surface.
Bonjour, donc moi je vais vous parler. C'est bon ? Moi je vais vous parler de Tchoury, de la comète. Et dans le cadre de la mission Rosetta et Philae, donc une mission qui s'est terminée pour la partie mission spatiale en septembre dernier, et qui était une aventure qui a commencé il y a 30 ans. En fait. Alors, déjà, pourquoi aller sur une comète ? Première question. Les comètes, pour vous, c'est ça. Pour nous, c'est plutôt ça. C'est-à-dire un noyau qui fait quelques kilomètres de diamètre, qui est un bloc de glace et de poussière minérale et aussi organique. Et en fait, ce noyau, on n'a pas la possibilité de l'observer depuis la Terre, puisque quand la comète est à une distance qui permettrait une observation, ce noyau est masqué par une coma, mais aussi par la grande queue de poussière et de gaz. C'est en fait cette queue-là qu'on observe essentiellement. Et on n'a donc pas accès directement à ce noyau. Or, ce noyau, c'est un moyen essentiel, c'est un accès essentiel pour connaître l'origine et les mécanismes de formation du système solaire. En fait, pour être très très synthétique, on peut résumer avec ce diagramme la vie d'un système de type solaire planétaire à partir d'un nuage de poussière dense, d'un nuage de poussière diffus, pardon. Ce nuage de poussière diffus va peu à peu se condenser sous l'effet de la gravité, et en se condensant, il va se mettre en rotation de plus en plus rapide, et en fait, c'est cette mise en rotation qui va finir par former au centre, et cet effondrement, qui va finir par former au centre une étoile, ici, qui va former progressivement une étoile, et dans ce qui va rester de cette accrétion, dans le disque de débris, il va y avoir formation de tout le système planétaire. Et en fait, on a besoin de valider, de mieux comprendre les mécanismes qui pilotent toute cette phase de formation. Et l'intérêt des comètes pour ça, c'est que c'est des noyaux, c'est des objets très très primitifs. C'est-à-dire des objets qui ont été accrétés dans les zones externes du disque d'accrétion et du disque de débris, dans les phases les plus précoces de notre système solaire, mais qui depuis ont été très très peu modifiés, parce qu'ils sont restés dans ces zones extérieures et ont reçu un flux solaire très limité. Contrairement à typiquement les planètes telluriques, mais aussi les astéroïdes, qui, par leur histoire, ont été totalement remaniés. Donc, accéder à un noyau cométaire, c'est avoir une petite fenêtre sur la formation de notre système solaire. C'est la raison pour laquelle, déjà, pour aller en 86, il y avait eu toute un armada qui s'était dirigé vers cette comète pour l'observer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, ça a été l'une des premières missions importantes de l'agence spatiale européenne. Je parle de missions qui n'étaient pas circumterrestres. Mais ça a aussi été un grand raté pour la NASA, finalement, qui n'a pas vu venir l'événement. Et il y a eu une mission ESA, deux missions russes, deux missions japonaises, et pas de mission américaine. Et c'est la mission de la NASA, c'est Giotto, de l'ESA, c'est Giotto, qui est passée au plus près, elle est passée à quelques 500 kilomètres, mais en fait, les dernières images obtenues ont été prises à un millier de kilomètres. Donc typiquement, c'est cette image, c'était la première fois qu'on voyait un noyau cométaire directement observé à quelques 1000-1300 kilomètres ici. Donc tout de suite après Giotto, il y a eu l'idée de refaire une mission européenne d'envergure vers une comète pour compléter nos informations. Et l'idée tout de suite, ça a été non pas de faire un flyby, parce qu'avec Giotto, on a simplement croisé le noyau de la comète. Giotto, par rapport au noyau de Halley, était à 68 km par seconde. Et la croisée en étant à 500 km au plus près. L'idée, c'était d'aller vraiment se mettre en orbite autour d'un noyau cométaire. Donc ça, c'est juste pour donner une idée des échelles de temps sur lesquelles on travaille. 86, Giotto, on commence à lancer le projet. L'idée à l'époque, c'est de faire un retour d'échantillon. Ce projet, il mature, on abandonne l'idée du retour d'échantillon, et c'est en fait en 94 qu'il y a le vrai appel d'offres pour les instruments scientifiques, c'est-à-dire que la mission est bien définie. On fait l'appel d'offres. Moi, c'est le moment où j'ai commencé à travailler sur cette mission. Après, 10 ans après, 2004, le lancement. Donc 10 ans pour fabriquer la sonde et les instruments. 2004, 2014, 10 ans pour voyager et pour accéder à la comète. 2 ans d'opération, et maintenant il y a l'analyse des données. Et en fait, l'analyse des données, il y a, pour les comètes, il y a un avant et un après Rosetta, et il y en a pour 10, 20 ans d'analyse de données, tellement ce qu'on a observé est totalement différent de ce qu'on pensait, et tant mieux. Autre chiffre, un peu pour donner des idées, l'idée que j'avais, c'était de montrer un peu la différence qu'il y a entre une mission réelle, telle que j'ai eu la chance de pouvoir la vivre dans les 25 dernières années, et puis la représentation qu'on peut avoir, je dirais, au niveau science-fiction, au niveau littéraire d'une mission. Un satellite comme Rosetta, une sonde comme Rosetta, c'est typiquement 3 tonnes. C'est 3 tonnes au décollage. Sur ces 3 tonnes au décollage, il y a plus de la moitié qui correspond à des ergols, à des carburants pour pouvoir se propulser. Et le reste, c'est l'équipement, c'est la plateforme elle-même. Et là-dessus, il y a 160 kilos d'instruments. Ça correspond à 11 instruments sur Rosetta, plus un lander qui fait lui-même une centaine de kilos. Donc on a vraiment un rapport où on a plus d'un ordre de grandeur entre ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire ce qui nous sert vraiment, ce pourquoi on a fait la mission, et puis le reste. Alors l'autre spécificité de Rosetta, la difficulté, c'est que d'habitude, quand on va sur les zones lointaines du système solaire, quand on dépasse Mars jusqu'à Rosetta, la capacité énergétique était produite par des petits réacteurs nucléaires, des petites charges radioactives, avec des systèmes à effet Peltier. Sur une sonde comme Galileo, il y avait 80 kg de plutonium, ce qui pose des problèmes. Ça pose des problèmes de sécurité avant le lancement, mais ça pose aussi des problèmes de sécurité lors du lancement. S'il y a un échec au lancement et que la totalité est dispersée dans l'atmosphère, c'est quand même un peu critique. Donc le choix de l'ESA, et c'est maintenant le choix sur un certain nombre de missions, y compris des missions NASA, a été de partir avec des panneaux solaires. Donc ça a obligé d'avoir 64 mètres carrés de panneaux solaires, ces grands panneaux solaires, avec finalement une limitation de puissance quand on était loin, très peu de puissance disponible à bord. Alors ça, c'est cette image-là, c'est Rosetta en cours de fabrication. Là, vous avez Rosetta dans sa cuve de test et de vide thermique. Donc là, c'est une énorme facilité, une énorme cuve qui fait plus d'une dizaine de mètres de diamètre et puis qui fait une trentaine de mètres de haut, dans lequel on va faire le vide, on met le satellite et puis on va refroidir les parois de la cuve de manière à simuler le vide spatial et puis, avec un éclairage intense, simuler l'illumination solaire et pouvoir tester si l'étude thermique qui a été faite du satellite fonctionne bien. Donc, dans les 10 ans, il y a toute une partie qui sont ce type de tests où on va valider le fonctionnement de la sonde pour sa vie dans l'espace.
Il y a combien de sondes qui sont construites ? C'est celle qui est partie dans l'espace qu'on
a vu ? Ouais, celle-là, c'est la vraie. Tout à fait. En fait, il y a jusqu'à une époque récente, c'est là où je commence à vieillir, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on construisait un modèle, une copie conforme de la sonde, on la testait, c'est-à-dire qu'on la mettait dans des conditions extrêmes, pires que celles qu'elle avait rencontrées, ce qu'on appelait un modèle de qualification, et puis, après, une fois qu'on en tirait l'expérience, on fabriquait le modèle de vol, celui qu'on lançait. Depuis une vingtaine d'années, on a suffisamment de recul pour ne plus avoir besoin de faire un modèle complet, ce qui est une économie de temps et surtout d'argent, un modèle complet de la sonde avant lancement. C'est-à-dire on fait simplement un modèle qui est électrique, qui permet de représenter, et en particulier de tester les soft bords, sur lesquels, eux, malheureusement, on n'a toujours pas beaucoup de recul. Mais la mécanique et la thermique est suffisamment maîtrisée. Voilà, donc bon, ça c'est une vue de Rosetta avec donc tous ces instruments, avec en particulier Concert, c'est-à-dire l'instrument sur lequel je travaillais. Bon, Osiris, la caméra, l'essentiel des images que vous allez voir viennent d'Osiris. Vous avez le lander ici, mais vous avez aussi un spectromètre de masse, un système de spectrométrie. Micro-ondes, vous avez des analyseurs de poussière et puis aussi des analyseurs pour analyser le champ électrique et le champ magnétique dans la core. Le lander, donc j'avais dit une centaine de kilos, avec l'autre partie de Concert, je vous en parlerai tout à l'heure, mais aussi avec des caméras, avec un système de drill pour alimenter des spectros de masse et aussi des mesures de température et de permittivité diélectrique. Alors, pour continuer, donc la sonde est construite, elle est testée, il faut la lancer. Pareil, quelques chiffres, on va lancer 3 tonnes dans l'espace. Pour lancer 3 tonnes dans l'espace et les libérer de l'attraction terrestre en les mettant sur une orbite très proche de l'orbite de la Terre, à 11 km par seconde typiquement, on a besoin d'une Ariane 5, c'est-à-dire de 750 tonnes, dont la majeure partie, 680, c'est du carburant. Pour donner des ordres de grandeur, donc quand on a typiquement les visions des vaisseaux spatiaux qui partent vers l'espace lointain avec des rapports carburant masse utile qui sont inférieurs à un facteur 2, c'est assez peu crédible. Et pour y arriver, c'est 10 ans de croisière et 4 rebonds. Parce que cette énergie-là, ça nous permet juste de sortir de l'attraction terrestre. Pas plus, ou à peine plus. Et en fait, la technique pour pouvoir naviguer loin, ça va être de prendre une orbite solaire et puis de faire des rebonds gravitationnels, c'est-à-dire de frôler la Terre et Mars. Et là, on n'est plus sur un problème à deux corps en termes de gravité, on est sur un problème à trois corps. C'est-à-dire que la gravité de la Terre va s'additionner à celle du Soleil pour dévier la trajectoire. Et comme on a bien fait les calculs, on va prendre une trajectoire de plus en plus elliptique, progressivement. Au fur et à mesure qu'on va faire des rebonds gravitationnels, on va prendre une trajectoire de plus en plus elliptique qui va permettre de s'éloigner et d'aller, à la fin, se rapprocher de la trajectoire de la comète de manière à suivre après cette comète. Et en fait, le carburant, les 1 tonne 6 de carburant qu'il y avait sur Rosetta, sa seule utilité, c'était de faire des petites corrections de trajectoire au fur et à mesure, de façon à pouvoir aborder au mieux les rebonds gravitationnels, de façon à pouvoir suivre la comète à la fin. Donc, pour pouvoir voyager loin, finalement, on utilise essentiellement le carburant. Maintenant, il y a d'autres solutions qui sont la propulsion électrique, mais la propulsion électrique a aussi ses problèmes, et finalement, pour aller rejoindre une comète en propulsion électrique, on est aussi dans une dizaine d'années. Alors, quelques images juste pour la beauté, juste pour les yeux. Survol de la Terre avec la Lune, donc c'est le premier... c'est le premier rebond gravitationnel. Deuxième rebond gravitationnel avec Mars ici et puis le panneau solaire de Rosetta qui est pris. C'est en fait la caméra qui était sur le lander. Donc la caméra qui était sur le lander, dans son champ de vision, elle avait les panneaux solaires. Nouveau survol de la Terre avec ici la Lune. Et entre les deux, entre ce survol et le suivant, on a pu visiter un petit astéroïde, donc l'astéroïde Stein, qui avait 5 km. Alors, ça aussi, c'est un point intéressant, j'y reviendrai après, sur l'image de la ceinture d'astéroïdes. On a traversé, on est resté plusieurs mois dans la ceinture d'astéroïdes, on l'a traversé deux fois, et puis on est resté dedans un long moment. Et en fait, la ceinture d'astéroïdes, elle est essentiellement vide. Dans la ceinture d'astéroïdes, la distance moyenne entre les corps, c'est 1 million de kilomètres. Donc, ça a été très difficile et ça a demandé des corrections de trajectoire importantes pour pouvoir profiter de Rosetta, pour frôler deux astéroïdes. Quand je dis frôler, c'est à 1 millier de kilomètres, et pouvoir les imager. C'était le bonus. Nouvelle survol de la Terre et nouveau rebond gravitationnel. Celui-là, avec celui-là, on commençait à aller dans l'espace profond. Et en allant dans l'espace profond, on a croisé un nouvel astéroïde. Donc là, c'est Lutetia. C'est un beaucoup plus gros. Hein. C'est plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Et c'est rigolo parce que là, en fait, c'était pas prévu, mais il y a Saturne au fond de l'image. C'est assez joli. C'était pas prévu initialement. Ils ont dit oh, c'est un peu par hasard. Voilà. Alors, je reprends. Hein. On a fait nos trajectoires. On vient de survoler. Et puis là, on se rapproche progressivement de l'orbite et on va bientôt pouvoir se rapprocher et voler en direction de la comète. Alors, le seul problème, c'est que si on regarde sur cette courbe en fonction du temps, là, vous avez simplement en violet la distance par rapport au Soleil. Eh ben, on part de la Terre. Après, on fait les premiers rebonds gravitationnels. Et ainsi de suite. Alors déjà là, on est dans la ceinture d'astéroïdes, c'est le premier survol. Et puis là, on repart pour une grande zone. On va jusqu'à 5 unités astronomiques, c'est-à-dire à peu près un peu plus loin que Jupiter. On va plus loin que 5 unités, donc on va un peu plus loin que Jupiter. Mais une fois qu'on est là, on a très peu d'énergie. Donc il a fallu mettre la sonde en hibernation, couper les moyens de communication, et puis la faire naviguer de manière automatique pendant 2 ans. Donc, 2011, on met la sonde en hibernation, on n'a plus aucun signal qui revient, et puis c'était le réveil en janvier 2014, avec ça c'est juste l'écran avec la porteuse du signal émis par Rosetta disant « Coucou, je me réveille, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là c'est le premier signal qu'on a reçu en janvier 2014. Alors, quand on était en janvier 2014, moi j'avais juste travaillé 20 ans sur le sujet. C'était la première fois qu'il y avait une sonde qui était mise en hibernation pendant 2 ans et demi, comme ça a été le cas ici. On était un peu nerveux, quand même. Et puis, réveil en janvier 2014. Et à partir de ce moment-là, au début, on avait juste ce qu'il fallait comme énergie pour faire tourner la sonde. Aucun instrument. Progressivement, on a réveillé les instruments. Notre premier test, c'était en mars. Et puis, on a foncé sur la comète. Le but, c'était d'atterrir au 12 novembre. Donc, ça a été une espèce de course sans fin. Il fallait atterrir au plus tôt possible parce que plus la comète se rapprochait du Soleil, plus elle était active, plus l'atterrissage était risqué. Donc, dès le départ, il avait été choisi de dire « on arrive, on regarde ». Donc, c'est vraiment comme Christophe Colomb arrivant et devant tout de suite choisir où va être sa maison définitive, etc. Il a à peine le temps de regarder l'Amérique. Il est déjà en train de prévoir comment il va débarquer. Il n'a pas le temps de rester 3 jours pour regarder ce qui se passe. Première détection, 30 avril. Quand je dis détection, c'était juste la première fois qu'on voyait un point depuis Rosetta qui correspondait à la comète. Alors, on a quand même eu très peur parce qu'on a eu un espèce de sursaut d'activité ici. Où on voit qu'il y a une coma qui se débloque sur la comète, donc de l'activité, et on s'est dit, si elle est déjà active à ce niveau-là, comment est-ce qu'on va atterrir dessus? Et puis finalement, cette activité-là, alors peut-être que c'était simplement un bloc qui a été croisé, un petit astéroïde qui a été croisé, et qui a créé un petit cratère, et qui a fait que de la matière a été éjectée, on ne sait pas, mais on n'a pas eu d'activité par la suite. Les premières images, quand je dis premières images, un peu résolues, c'est-à-dire supérieures à 1 pixel, c'était le 4 juillet. Et puis, c'est seulement vers le 20 juillet qu'on a commencé à avoir ces images-là. Alors, quand on a eu ces images-là, on s'est dit, c'est assez bizarre comme forme. Alors, peu de temps après, pour donner une idée, hein, donc le 29 juillet, on était là, Le 1er août, on était là. C'est-à-dire que en quelques jours, ça donne une idée de la vitesse à laquelle on fonçait sur la comète. Comment, à quel point on changeait de résolution, on changeait de type de résolution. Le 29 juillet, on était à 2000 km, et là, on était à 1000 km. Donc, c'est à partir du 4 août qu'il y a eu une insertion cométaire. Donc, on a commencé à considérer qu'on voyageait sur la même orbite. Et donc, on a fait cette image-là. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est qu'on avait prévu beaucoup de calme, on n'avait pas prévu que sa forme générale, ça serait un canard. Donc, ça veut dire que on devait atterrir sur un canard, à la Toussaint, tout ce qu'on avait prévu comme scénario, c'était pas vraiment ça. Alors, le 3 août, c'est pareil, hein, vous voyez comment en quelques jours on change, on est à nouveau là, on est à 300 km. Et à partir de ce moment-là, à partir du 3 août, on a commencé à prendre des décisions d'atterrissage, à choisir le site d'atterrissage, parce que il fallait 2 mois pour finaliser la procédure d'atterrissage. Donc, il fallait que la procédure d'atterrissage, mi-septembre, elle soit quasiment figée. Donc, fin août, on a sélectionné 5 sites d'atterrissage fin août, qui serait un de ces 5 devait être le site final. Et tout ça s'est accéléré. On prenait des décisions. Chaque fois qu'on prenait une décision, en fait, le lendemain, on avait des informations, donc des informations qui étaient contradictoires avec la décision qu'on prenait. Et on savait très bien qu'à chaque instant, il fallait qu'on prenne la décision avec les informations qu'on avait et qui étaient totalement limitées. Donc ça a été vraiment un travail collectif où on s'est retrouvés. On a eu plusieurs fois scientifiques et techniciens, et personnes des opérations, des séminaires de 3-4 jours où on faisait ses choix et on avançait. Tout ça, ça nous amène très rapidement au 12 novembre et à l'atterrissage. Donc ça, c'est Philae qui s'est séparé, qui a ouvert ses pieds et qui, peu à peu, descend vers la comète. Donc c'est des images prises par Osiris, par la caméra dont je parlais précédemment. Là, c'est vu de l'autre côté. C'est des images prises depuis Philae qui commencent à s'approcher de la comète. Alors, on avait un scénario, tout s'est bien passé. Ça, ce sont les images au fur et à mesure. Alors, on les avait pas en temps réel, hein, ces images-là, on les a eu a posteriori, en fait, celles-là. Ce sont les images où on voit progressivement le lander s'approcher. On était content, on avait le signal d'atterrissage, on a commencé à boire du champagne, et là, mon téléphone a sonné, et j'ai des collègues qui m'ont dit, Alain, on a un problème, est-ce que ton instrument est en train d'opérer? Parce que là, on comprend pas ce qui se passe, il bouge. L'idée de départ, c'était de dire qu'il pensait qu'il était en train de glisser, simplement, parce que ce qu'il voyait, c'est que l'illumination sur les panneaux solaires changeait. Et puis, peu à peu, alors, moi, mon instrument, il fonctionnait, mais il était en mode de stand-by, donc il n'était pas en train de fonctionner. Il était allumé, mais il n'était pas en train de fonctionner. Donc, je pouvais pas donner d'informations à ce moment-là. Et peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Sur les premières images, on a vu que avant le touchdown, il y avait ça. Après le touchdown, il y avait ça. Mais il n'y avait pas de lander, il y avait juste une trace au sol. Donc la question, c'était où est passé Philae? Bien longtemps après, on s'est rendu compte, il y a des gens qui se sont rendu compte qu'en fait, sur cette image-là, la même, hein, celle qu'elle avait prise là, dans le coin, il y avait un petit point qui n'existait pas avant. Et que c'était Philae qui était en train de partir. Donc en fait, il a rebondi. Il y a les mécanismes d'ancrage qui n'ont pas fonctionné, et il a rebondi. Alors, d'ailleurs, on le voit là, c'est aussi une autre photo, ou par hasard. Très vite, on a eu une image du lander. On avait vu qu'il avait atterri, on ne savait pas où. Et là, il y a le pied du lander, là, c'est l'image prise depuis le lander. On arrivait à communiquer après, avec, mais on ne savait pas où il était. Et en fait, nous, notre instrument, il s'est remis à fonctionner. C'est un radar, j'en parlerai un tout petit peu après. Donc avec un radar, on peut mesurer des distances. On n'avait pas prévu pour ça, on n'avait pas prévu les logiciels d'inversion pour ça. Nous, on voulait mesurer les propriétés de la comète avec, mais on s'est dit, on peut peut-être sortir une information. Et dans la nuit, on a pu sortir une information qui donnait une localisation. Alors on l'a envoyé au projet en disant, ça a été fait entre 2h du matin et 5h du matin, c'est sous réserve, on verra ce qu'on en dit après, mais ça peut aider. Et en fait, le projet était très content parce qu'à la conférence de presse du lendemain, entre j'ai un lander, je sais pas où il est, et j'ai un lander, je pense qu'il est là, il trouvait que c'était mieux. Bon, ça m'a permis aussi d'avoir ma production qui se retrouve en première page du Wall Street Journal, ce que je n'avais jamais imaginé auparavant. Ce qui prouve aussi qu'il y a eu une couverture de presse et une couverture mondiale de cet événement. C'était la première fois que l'ESA écrivait une première page de la conquête spatiale. Et ça a eu un retentissement. Ils ont fait une promotion qui était remarquable. C'était aussi la première fois qu'ils faisaient une promotion de cette qualité. Et ça a eu un retentissement qui était remarquable et inattendu. Bon, ça, c'est juste pour dire que, à la fin, on a retrouvé Philae. Il était là. Et notre dernière estimation de position, c'était cette zone-là. Donc ça, c'est un demi-terrain de football, coupé dans le sens de la longueur. Et on était à peu près dans le milieu, donc on est très, très content. Et ça, c'est quelques images. C'est l'image de la localisation finale du lander, où on voit ici le lander, et puis un peu agrandi ici. Alors, quelques images, mais j'ai déjà parlé beaucoup trop, donc je vais aller rapidement. Quelques images, juste pour le plaisir des yeux, pour montrer que, en fait, on a une surface de la comète qui est très compliquée, beaucoup plus compliquée qu'on s'y attendait, avec des processus vraiment complexes, qui sont à la fois ces espèces de cavités et ces espèces de terrasses qui sont en fait les mêmes phénomènes, hein. C'est à la fois des phénomènes de dégazage très complexes, beaucoup plus complexes qu'on s'y attendait, mais ça peut être aussi des traces des mécanismes de formation, d'accrétion de la comète, donc des informations, comme je le disais, c'est clés de compréhension pour l'information des comètes et du système solaire. Bon, quelques photos d'activité, voilà. Juste quelques mots pour finir sur CONSER. Donc CONSER, c'est un radar dont le but, c'est un radar grenoblois dont je suis co-responsable chez Copy Eye de l'instrument, et l'idée, c'était de mesurer la propagation d'ondes entre le lander et l'orbiteur, de façon à pouvoir remonter à des informations sur la composition et la texture du noyau cométaire. Et en fait, c'est une des seuls instruments qui permettait d'avoir une information non pas sur la surface, sur les premiers millimètres, mais sur la structure interne. C'est l'intérêt des techniques radar. Voilà. Alors, tout ça, j'en ai pas parlé. Eric en a parlé rapidement. C'est beaucoup de planning. C'est vraiment, on avait deux plateformes à faire opérer en même temps, un orbiteur et un lander qui devaient se causer, et parce qu'on était un instrument sur les deux. Donc, c'est vraiment des heures et des heures pour mettre au point des plannings d'opération, pour mettre au point des procédures. Et c'est 2 ans de travail pour arriver à mettre au point, avant l'arrivée sur Rosetta, toutes les procédures d'opération. Avec une difficulté par rapport à Mars, c'est que la comète, elle évolue. On ne sait pas le corps sur lequel on va arriver. Et en plus, c'est un corps qui évolue dans le temps. Donc on peut pas dire, il n'y a pas un côté routinier comme on peut l'avoir sur Mars. Pour finir, c'est la fin de la mission en septembre dernier, avec le choix d'un site d'atterrissage et finalement les dernières images où on s'est approché peu à peu de plus en plus près pour à la fin aller se poser. Alors ça, c'est une des dernières images, 11 cm de résolution, 11 cm par pixel. C'est la dernière image précise. L'image d'après, elle est floue parce que les caméras de l'orbiteur n'étaient pas censées s'approcher à 200 mètres de la surface. Et puis, la fin du signal, l'extinction du signal et la fin de Rosetta. Voilà, je vous remercie.
Alors, est-ce qu'on a encore 10 minutes ? Oui, une question.
J'ai une question sur l'avion sur Mars. Au sujet de la NASA.
Oui.
Si on peut envoyer des gens là-bas, c'est quoi les boulots ? C'est quoi la progression pour se protéger des radiations dans le futur ? Pour l'instant, c'est 60 heures. Si un jour on veut qu'il y ait des gens qui soient là-bas.
Je ne suis pas prophète en technologie. Voilà. Je dis simplement l'état actuel. Et en fait, je vais répondre très partiellement, en fait, plutôt ne pas répondre à la question dans le deuxième diaporama qui est justement pour ouvrir un peu le débat. Alors, voilà. Donc, c'est simplement une dizaine de diapos et c'est plus pour ouvrir la discussion. On a 4 jours après pour discuter de ces aspects-là. Il y avait une autre question.
Oui,
vous avez un placard que vous n'avez pas ouvert depuis 15 jours, hein, depuis 6 mois. Quand vous l'ouvrez, si c'est que de la poussière, il y a une odeur de poussière sur Mars, a priori.
Oui, mais il n'y a pas d'oxygène, ou
Les gens du spectre de masse avaient fait toute une communication sur l'odeur de la comète en ayant identifié des composés sulfurés en disant qu'elles ne sont pas bonnes. C'était un coup de pub pour leur instrument. Après, c'est clair que dans la coma, il y a toute une partie de composés, il y a toute une chimie organique complexe, puisque à partir des composés organiques, il va y avoir le flux ultra-violet qui va provoquer toute une cascade de réactions chimiques complexes. Donc, à partir de cette réaction chimique complexe, il y a forcément des choses qui ne semblent pas forcément très bonnes. Il y a des composés aromatiques, peut-être qu'ils sentent bon aussi. Mais il y a des composés aromatiques. Donc, quelque part, oui, il y a une odeur.
Alors, on n'a pas essayé de
dire. Non, je ne peux pas dire.
J'ai un bug dans le programme, j'ai pas vu ma souris. Donc on refait défiler. Il faut juste attendre de revenir en bas. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a la mise en place de consortiums pour industrialiser l'espace. Alors il y a plusieurs types d'industrialisation. Vous en avez entendu parler il y a une dizaine d'années, avant Obama, donc oui, ça fait il y a 10 ans, un peu plus. Bush voulait industrialiser la Lune et voulait qu'on ait des stations lunaires permanentes. Bon, merci. Voilà, vous avez tout. Voilà. Voulait industrialiser la Lune, mais pour ça, il fallait une énergie. On avait imaginé qu'avec l'hélium-3, on allait pouvoir faire tourner des réacteurs à fusion thermonucléaire. Bon. C'est la grande question à l'heure actuelle. Peut-être ça se fera dans 20 ans. À ce moment-là, il faut ce qu'il faut, et en particulier l'hélium-3, assez présent sur la Lune. Donc c'était ça l'idée. Après, quelle industrie on peut faire? Il y a des industries qu'on peut faire dans l'espace parce qu'il n'y a pas de gravité, première chose. Et ça, on le voit, on le teste avec l'ISS. Effectivement, il y a des choses intéressantes qui sont en cours d'être faites en basse orbite. Si on peut aller s'installer sur la Lune, on n'est pas tout à fait en zéro gravité, mais c'est un dixième de la gravité terrestre. C'est quand même déjà ça de gagner, et pourquoi pas. Et puis après, il y a d'autres industries, il y a les industries primaires, c'est de bénéficier des matériaux présents. Et donc, ça s'appelle l'industrie minière. Et ça, quand vous avez des images comme ça, alors je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, c'est tout à fait faux. Regardez, la ceinture principale d'astéroïdes, il y a plus de 100 000 corps. Mais il y a un réservoir de matière là qui est absolument incroyable. Quand vous refaites une représentation comme ça, vous n'avez pas là-dessus, vous avez à peine 2000 points. Bon, je vous ai dit, en fait, c'est tellement grand qu'il n'y en a pas deux qui sont proches de moins de 1 million de kilomètres.
Donc, et accéder à un est une complexité énorme à chaque fois. On ne peut pas en visiter 15 très facilement.
Oui, mais non, mais ça, c'est pas vrai. On va progresser technologiquement. Et on va vraiment améliorer les choses. Et donc, il y a ça. Et puis, de temps en temps, très régulièrement, vous savez qu'on est frôlé par des astéroïdes. Et il faut pouvoir s'en protéger. Donc, là, il y a une mission qui avait été projetée. Elle vient de se faire dézinguer. On n'a pas tout à fait compris pourquoi. Enfin, si, mais ça se raconte pas. Qui était de faire un test, d'aller choquer un astéroïde pour voir comment on le détournait. Enfin, différentes techniques de protection. C'était aussi un moyen d'approcher et de voir qu'est-ce qu'elles contiennent. Alors, si on regarde les astéroïdes qui vont frôler la Terre. Frôler, la définition, c'est moins de 10 fois la distance Terre-Lune.
Il y en a même un quand même à 13 fois. Non, c'est aux distances. Voilà, c'est les distances minimales. Là, vous voyez, 14 fois, 15 fois, 11 fois, 18 fois, 3 fois. Ah, là on commence 3 fois la distance Terre-Lune. Hein. Donc, ça veut dire 3 fois, ça veut dire 1 million de kilomètres. 3 fois, c'est 1 million de kilomètres. Bon, vous voyez, c'est très fréquent puisqu'on en a un dans quelques jours là, et puis vous avez le tableau là jusqu'au 1er septembre. Donc ça va, vous pouvez prendre vos vacances, on ne va pas se prendre un caillou sur la tête. Leur dimension, c'est des objets qui sont très gros, quoi. C'est des objets qui font des dizaines de mètres. Alors un objet comme ça, ça contient suffisamment de matériaux s'il est de la bonne sorte. Là, j'ai caché quelque chose qui est du jargon. Il n'y a aucun intérêt, mais enfin, il y en a quelques-uns qui potentiellement pourraient être des mines de fer. Et un objet qui fait 200 mètres de diamètre, oui, vous avez la quantité de fer nécessaire pour faire fonctionner l'humanité pendant un an. Et puis alors, bon, sur un autre site, il y a ce que ça rapporte comme sous. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les capturer, on va les amener en orbite lunaire. Ça, c'est voilà, il y a rien de difficile. Vous voyez, c'est complètement imagé là. Et donc voilà. Alors, j'ai dû paumer dans mes machines. Je voulais vous montrer ce que ça va rapporter. Alors, c'est à la mode. Ça, j'ai pas fait exprès. C'est le numéro en cours en vente dans vos kiosques. Et ils ont repris toute cette philosophie du futur exploration, l'Eldorado. Voilà. Et puis, ils ont sorti cette chose-là, les 50 astéroïdes les plus rentables. C'est des milliards de dollars, 73 milliards de dollars. C'est complètement 4000 milliards de dollars. C'est fabuleux. Vous allez voir d'où vient la source d'information, parce que moi, qui travaille sur les météorites, pas que sur Mars, je connaissais pas ça. Donc, je comprenais pas. Je suis allé voir la source d'information. La source d'information, c'est un site que je ne dénoncerai pas. Il s'appelle astéran.com. Et vous arrivez sur ce site-là et vous lisez dans l'ordre la valeur de ces astéroïdes, Ryugu, voilà, quelque chose comme 82 milliards de dollars, et avec un profit potentiel de 30 milliards de dollars. Je connais aucune industrie sur Terre qui a un potentiel à retour de 30%. Mais dans l'espace, ça existe. Voilà, c'est absolument fabuleux. Alors ça, c'est voilà, c'est ce qu'on entend à l'heure actuelle. En particulier, eh bien, il y a ces deux sociétés-là qui ont beaucoup travaillé pour faire un gros lobbying et pour faire oublier qu'il y avait ça. Il y a eu un traité, le traité de l'espace, en 1967. Dans l'article premier, il est écrit « L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-astrosphérique, c'est-à-dire à plus de 100 km d'altitude, c'est ça l'espace. Enfin, pas pour les touristes, pas pour le tourisme. Le tourisme, c'est à partir de 25 km, mais officiellement, dans les traités, c'est à partir de 100 km. Y compris la Lune et les autres corps célestes doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique, scientifique. Elles sont l'apanage de l'humanité tout entière. 1967, dans un contexte de guerre froide, où ce qu'ils avaient en tête, c'est... la non-militarisation de l'espace et l'assistance en cas de souci. C'était ça qu'ils avaient en tête, avec comme exemple le traité d'Antarctique et puis les règles de secours en mer. On a sorti ça, et grosso modo, 40 ans plus tard, on se dit il y a peut-être du business à faire. Et donc, les juristes américains ont bossé très très fort, et on dit, en fait, on va pas violer le traité de l'espace, ça reste pour l'humanité, mais à travers des entreprises. N'est-ce pas ? Et donc, ça, c'est un lobbying qui a été fait par ces sociétés-là. Et alors, tout de suite après, c'est-à-dire quelques mois plus tard, le Luxembourg a décidé de faire un ministère de l'espace, parce que c'est une grande nation spatiale, et évidemment pour la paix. Et puis ils ont embauché accessoirement le directeur de l'ESA qui venait de finir son mandat et qui donc œuvre maintenant pour le bénéfice de l'humanité, c'est bien écrit. Hein. Sauf que la logique qui est derrière, c'est la logique du premier arrivé, premier servi. Alors c'est tout à fait par hasard qu'il y a quelques jours, le 6 juillet, sur France Culture, il y a eu une émission qui est reprise d'un truc d'il y a un an,
où il parle la même chose sur la Lune. Donc, allez écouter ce podcast-là. Il va pour 1000 jours, je crois. Ça vaut le coup de voir la vie de juristes. Ils sont pas du tout sur la même philosophie. Il y a les défis technologiques, hein, dans combien de temps, la disponibilité des ressources. Pour l'instant, moi, je connais aucun astéroïde où je peux dire qu'il y a un sou à gagner. Rentabilité économique, ça, c'est gros point d'interrogation. Mais bon, voilà, soyons positifs. On va le faire. Au bénéfice de qui? Premier arrivé, premier servi, ça, c'est le Space Act. Au bénéfice de l'humanité. Si je suis pessimiste, je vais dire il va falloir des siècles pour y arriver. Si je suis optimiste, je pense qu'on peut pas dire qu'on y arrivera avant 40-50 ans. Vous avez vu les constantes de temps. On a largement le temps de se mettre d'accord. Maintenant, c'est plus un problème de scientifique, c'est un problème de politique. Donc il y a des gens qui commencent à réfléchir à ça. Pardon ? Parce que la Lune, c'est de la poussière grise, pour l'instant, du basalte, c'est-à-dire...
Du basalte, on en a assez sur Terre.
Ouais. on a très très peu exploré la Lune. Hein. Grosso modo, on a été à 6 endroits, on a fait un endroit, on a fait 40 km, mais c'est rien du tout.
Point de vue gravité, on sait que c'est pas métallique au centre.
Ouais. Voilà. Sur Terre, vous savez, il y a un endroit où il y a énormément de fer. Hein. Il y a de quoi couvrir les besoins de l'humanité pour quelques dizaines de millions d'années. Et c'est pas très loin, c'est seulement à 3000 km sous nos pieds. Bon, en plus, c'est fondu, il n'y a plus qu'à mouler. Voilà. Pour l'instant, on ne connaît aucun endroit où on peut trouver des choses qu'on puisse appeler minerais. Les astéroïdes, c'est essentiellement du caillou de base, plus quelques astéroïdes de métaux, mais je ne sais pas, on n'en a pas encore dit.
Les astéroïdes, là, ils montraient dans la planche une belle classification d'astéroïdes. Ce qu'on sait, c'est par rapport aux propriétés optiques et spécialement infrarouges observées depuis la Terre. Mais de manière générale, chaque fois qu'on est allé vers un astéroïde, on l'imaginait d'une certaine manière. Et on s'est rendu compte en arrivant que c'était totalement différent. Lutetia, il était classé M avant, c'est-à-dire astéroïde métallique, et il est tout sauf métallique. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas un recul de visite de suffisamment d'astéroïdes aujourd'hui pour vraiment avoir des certitudes sur quoi que ce soit. Alors, là où on n'est pas forcément d'accord, c'est que moi je fais partie des gens qui essayent un tout petit peu de surfer sur cette vague-là. Pour faire de la science. Oui. C'est-à-dire que, globalement, si aujourd'hui, de toute façon, la science spatiale n'a jamais été qu'un alibi. S'il y a eu les missions vers Mars, vers Vénus, s'il y a eu l'observation de la Terre, c'est juste parce qu'on avait besoin de démilitariser des technologies pour les justifier auprès du grand public, les gouvernements, plus un contexte de compétition. Le but scientifique derrière, dans la compétition entre la Russie et entre l'URSS et les États-Unis, la science était secondaire, c'était l'image qui était importante. Voilà. Et là, on se retrouve un peu dans cette même situation avec des gens qui poussent vers des missions et on essaye de faire de la science. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui essayent de faire la meilleure science avec, si ça peut aider.
Oui, oui. Bah, je suis tout à fait d'accord. Hein.
Choqué par mon approche.
Voilà où est-ce qu'on a été posé un bout de ferraille technologique. Hein. C'est-à-dire nulle part. On ne sait rien de notre système solaire. Mais simplement, partout où on a regardé, nulle part on a vu la mine d'or. Voilà. Je laisse tomber la dernière partie. Comme je suis là pendant 4 jours, on pourra en discuter. C'était sur la conquête de l'espace pour l'homme et j'avais pas non plus de très bonnes nouvelles. En tout cas pour les 30 à 40 ans à venir.
Alors, ça a varié fortement tout au long de la mission. Hein. Au réveil, ça devait être une vingtaine de minutes. On était à 3h08, donc ça devait être 20 minutes de communication. Au plus près, c'était, je crois, une dizaine de minutes. Pas aller-retour, hein. Allez, bien.
Le réveil, c'était plus éloigné.
Le réveil, alors, elle est passée à 5,5 unités astronomiques et on l'a réveillée à 3,2 de tête. Oui, puisque c'était, elle commençait les deux, c'est-à-dire elle commençait à avoir la même trajectoire que la comète et les deux commençaient à se rapprocher de la Terre.
Juste pour revenir sur ce que vous disiez par rapport au bénéfice de l'humanité, est-ce que, vous dites que c'est pas un bénéfice de qui ? Est-ce que c'est pas déjà le cas que les technologies qui sont développées grâce à l'exploration spatiale ou la recherche, elles sont pas forcément au bénéfice de tout le monde ? Enfin, dans l'humanité, tous les pays du monde ne peuvent pas se targuer de tirer les bénéfices de ça.
J'ai un trou de mémoire. Il y a un géographe qui montre que la notion de pays en voie de développement n'a plus cours en 2015, c'était au moment où il faisait parce que ces pays-là sont en train de rejoindre très rapidement. On n'a plus du tout un histogramme, une répartition des richesses où on avait le paquet des pauvres et le paquet des riches. On a maintenant un seul paquet. Il y a la queue, c'est toujours des pays pauvres, ok. Mais ils progressent beaucoup plus vite que l'ensemble de l'humanité. Et pour lui, il prédit que d'ici, si on est optimiste, 20 ans, mais évidemment avec tous les systèmes de guerre, on peut être un peu pessimiste, avant la fin du 21e siècle, on peut imaginer que l'humanité sera stabilisée en nombre, il a de bons arguments là-dessus, à vers 11 milliards d'habitants, et tout le monde aura accès à l'éducation, à un minimum pour sa santé et pour se nourrir. Évidemment, localement, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des famines, il y aura toujours des catastrophes. Mais dans l'ensemble,
moi, je vois plutôt le fait qu'il y a des super riches dans tous les pays et que dans chaque pays, nous avons 99% de la richesse du pays dans les mains d'une personne.
C'est pas différent de ce qu'il y avait il y a 50 ans, ça. Ça s'est pas amélioré énormément, mais pour le reste, il y a le problème des extrêmes, hein, pour lequel effectivement il n'est pas très optimiste lui-même. Mais si on regarde la statistique, depuis qu'on fait des statistiques économétriques et démographiques, le reste de l'humanité vit mieux.
Sinon, c'est quoi la gravité martienne?
Un tiers.
Ouais. Et on a des idées de ce que ça fait sur le développement?
Non.
Sur quoi? Sur
le développement humain.
Sur la biologie. Les Russes qui, enfin l'URSS, qui juste avant son effondrement avait allongé à outrance le temps de présence dans leur station orbitale. Ils étaient à
600 jours.
600, oui, 2 ans, c'est ça, c'est l'idée que j'avais. 600 jours, juste de façon à préparer un vol vers Mars. Hein. Leur idée derrière était vraisemblablement de préparer un vol vers Mars. Le problème, c'est plutôt le un an aller, un an de retour aussi par rapport à la gravité. Par rapport aux radiations, c'est un autre problème.
C'est quoi les prochaines sondes qui vont aller
vers
Mars?
Je répondrai plus tard parce que là, on est en train de bouffer complètement le temps.
Comme vous dites,